France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors que la plupart des candidats ont déjà engagé leur campagne pour les élections municipales et que la politique partisane prend parfois le pas sur les enjeux locaux, ces derniers entrent pourtant en résonance avec les grandes questions de notre époque. À quoi les villes de l'avenir devront-elles ressembler ? Au croisement de l'architecture et de l'urbanisme, cette interrogation fait bien sûr écho à la catastrophe climatique. Comment transformer les métropoles face à la hausse de la température, à la pollution aérienne ou encore aux problèmes énergétiques ? Une telle réflexion, aussi anticipatrice soit-elle, rejoint aussi les attentes les plus concrètes des citadins. Ne met-elle pas en lumière leur rapport au transport, au logement, à la nature et à l'espace public ? Il se pourrait, en somme, qu'elle invite à se demander dans quelle mesure les politiques urbaines peuvent garantir ou non la cohésion sociale entre les habitants. Municipal 2026, quelle ville pour demain ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés des urbanistes Carlos Moreno et Isabelle Barro-Serfati et de l'architecte Marc Breitman.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Bonjour Carlos Moreno.
Bonjour Nathan, merci pour l'invitation.
Vous êtes professeur à l'IAE Paris-Sorbonne, membre élu de l'Académie française des technologies et après avoir publié « Droit de cité » en 2020 aux éditions de l'Observatoire, vous allez faire paraître en mars 2026 la ville du soin. Bonjour Marc Breitman.
Bonjour Nathan Devers.
Vous êtes architecte, ancien professeur d'architecture à Paris-Belleville et nous allons parler de votre modèle d'architecture dans un certain nombre de villes, notamment au Plessis-Robinson. Et bonjour Isabelle Barro-Serfati.
Bonjour Nathan Devers.
Vous êtes économiste urbaniste, fondatrice de IBCity, professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po et auteur de Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse, paru aux éditions Apogée et réédité en février. J'évoquais en introduction le fait que les élections municipales se rapprochent, que le débat a déjà commencé, et je posais une question très simple par laquelle je voulais inaugurer notre discussion. Est-ce que vous avez le sentiment, Carlos Moreno, que les enjeux municipaux sont suffisamment présents dans cette campagne ou qu'elle est en un sens parasitée par des questions nationales, politiques, un peu dans l'esprit de la préparation de la présidentielle ?
Merci pour consacrer cette émission à la problématique des villes et du savoir-vivre, du bien-être, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez de débats en profondeur sur ce qui se passe dans les villes. Et pourtant, on sait qu'en Europe, 77% des personnes vivent dans les villes. En France, donc 3 sur 4 des Français vivent dans les villes où il y a des gros enjeux. Mais nous vivons des temps très trouble, on le voit tous les jours. Et il y a une politique nationale, voire internationale, qui vient parasiter effectivement les vrais débats de ce qui se passe dans les villes. Donc je pense aux enjeux avec les États-Unis, avec la Russie, parfois des problématiques qui sont liées à des pensées un peu extrémistes, liées à l'immigration, à l'insécurité, qui vient cacher les enjeux majeurs qui sont dans les villes. Mais des émissions comme la vôtre sont là et je m'en réjouis.
Isabelle Barro-Serfati, est-ce que ces municipales sont aussi l'occasion de réfléchir sur le rôle du maire dans la politique ?
Alors oui, tout à fait. Moi, je voudrais peut-être en préambule, en fait, dire mon admiration pour ces élus qui sont souvent dévoués à leur commune et à leurs concitoyens, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et qui le font dans des conditions de plus en plus difficiles, notamment du fait de la montée de l'individualisme, de la polarisation des débats et de l'invective facile. Et à ce titre, j'ai été très marquée récemment par la lecture d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La démocratie sans citoyens », qui a été écrit par l'ancien maire de Saint-Julien en Genevois, dans le Grand Genève, côté français, qui s'appelle Antoine Vieillard. Et c'est un témoignage absolument saisissant sur la réalité du mandat de maire, avec cette interpellation qui, me semble-t-il, nous interpelle tous, qui est qu'en fait, la démocratie, et notamment la démocratie localement, ça n'est pas un acquis, mais une responsabilité partagée. Et il conclut son ouvrage en disant « on a les élus qu'on mérite ».
Alors, on va peut-être parler, Marc Breitman, tout à l'heure, d'ailleurs, de lien entre les maires et les architectes, les questions de commandes, etc. Mais pour commencer par une question très générale, j'ai le sentiment, peut-être le préjugé, et si c'est le cas, c'est le titre de cette émission pour que vous me les enleviez, que l'architecture, qui est un art pourtant majeur, un art d'ailleurs que beaucoup de philosophes, Hegel le premier, célèbrent, comme l'art par lequel l'esprit des peuples, des nations, des sociétés s'objective, rentre dans l'histoire et fait avancer l'histoire, que l'architecture a une place un peu, je dirais, mineure dans le débat public et qu'on en parle finalement assez peu.
Cher Nathan, je suis tellement d'accord avec vous. Je dirais que, à la question que vous posiez initialement, de savoir si les maires parlent suffisamment de la ville, etc., de quoi parlent-ils en fait ? Ils parlent de tout ce qui est important, parce que les maires sont très insérés dans leur vie urbaine et dans la vie de leur ville, de leur village. Ils parlent d'écologie, ils parlent de sécurité, ils parlent de logement, ils parlent d'équipement public pour le bien-être de leurs habitants. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne parlent pratiquement jamais de la forme de la ville, ni même de la forme de l'architecture. Et en entendant votre question, je me disais qu'en fin de compte, ça rejoint, si on reprend la vieille définition de Vitruve, qui disait qu'en fin de compte, architecture, c'était l'utilité, l'utilitas, la solidité et la venustas. Il parle des deux éléments principaux que je viens de citer, mais jamais de la beauté, qui est un des éléments majeurs pour créer une ambiance agréable dans la ville.
Est-ce que vous partagez ce constat, Carlos Moreno, sur le fait qu'il y aurait cette carence-là dans le débat public ?
Oui, je constate que le débat public aujourd'hui, quand on parle des villes, quand on parle des élections municipales, laisse de côté ce que Marc vient d'appeler la forme de la ville, je la rejoins complètement. Mais je voudrais insister sur le fait que la forme de la ville, elle est liée à trois composantes aujourd'hui au XXIe siècle, parce que ce n'est pas la même ville que nous avons connue dans les contextes du XXe siècle, qui était un contexte productiviste, qui était un concept de zonification, qui a façonné la ville avec des longues distances, avec des temps de trajet, parce qu'elle était consacrée essentiellement à produire. Le 21e siècle, le siècle qui intègre aujourd'hui des nouveaux besoins, l'enjeu climatique, l'enjeu économique, l'enjeu social, la forme des villes qui évoque Marc, doit être transformée, et c'est l'essence de mes travaux, pour offrir essentiellement beaucoup plus de services. Et des services dans lesquels ce n'est pas uniquement les logements, parce que ça ne doit pas être uniquement une ville des bâtisseurs dans le sens constructif. Il doit y avoir des services qui sont liés à l'éducation, à la culture, à la santé, au commerce de proximité, au circuit court, à l'espace public. Et je partage avec Marc le besoin d'avoir de la beauté dans la ville. Les New European Bauhaus en Europe, il est constitué par trois éléments. Qui sont donc une ville durable, une ville inclusive et une ville belle. Et je pense que c'est cette initiative aujourd'hui que nous devons retrouver dans les débats publics sur les villes.
Alors, sur cette question des services et des services de proximité, ce que vous dites fait peut-être écho, et je vous propose de l'entendre, à l'annonce de Sébastien Lecornu lors de son premier déplacement en tant que Premier ministre à Mâcon, ce samedi 13 septembre, qui annonçait l'intention de créer un réseau France Santé pour faciliter l'accès aux soins de proximité.
D'ici à 2027, on doit avoir une offre de soins de proximité par bassin de vie à minima. Et donc globalement quelque chose autour de 30 minutes de chez vous. Et donc moi ce que je vais demander au ministre et au gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 et du projet de finances pour la sécurité sociale pour 2026, c'est de faire un réseau France Santé. Donc ça pour le coup c'est une priorité absolue pour moi. Je veux qu'elle soit inscrite dans les documents économiques et financiers qu'on va proposer à l'Assemblée nationale et au Sénat pour l'année prochaine, soit parce qu'on va venir soutenir ce qui existe déjà, puis surtout vous avez beaucoup d'endroits, outre-mer compris, territoires auxquels j'ai un attachement particulier, dans lesquels là, va falloir en plus prendre des mesures d'adaptation encore plus fortes.
Carlos Moreno, juste cette annonce, en effet, de Sébastien Lecornu, elle fait écho à votre problématique, notamment de votre prochain livre, de la question de la ville du soin.
Absolument, je me réjouis des propos qu'a eu Sébastien Lecornu, que j'ai connu quand nous faisions donc l'Université d'été des territoires, et j'ai évoqué cette question de territoire, santé et bien-être, qui a été repris d'ailleurs en Occitanie, hein, parce que Mme Carole Delga a développé ce qu'on appelle la santé des proximités, la santé des 15 minutes, et l'a rendu hommage à mes travaux. Je les rappelle dans mon livre, et ce que évoque le Premier ministre, cette idée, on appelle ça les territoires de la demi-heure pour les zones des faibles et moyennes densités, c'est-à-dire accéder à ce qui est absolument indispensable. Et parmi ces services-là, la santé et les bien-être doivent se faire dans une optique où c'est partout, à tout moment viable et accessible. En réinventant la médecine, parce qu'il faut, comme on l'a fait par exemple Carole Delga, recréer des nouvelles instances. Elle a créé un GIP, qui s'appelle la santé de proximité, qui permet donc d'offrir ces services dans des périmètres qui sont travaillés avec de la science. Et ça, c'est le message principal que j'avais aussi évoqué dans ces universités et territoires. Nous avons besoin d'un regard scientifique concernant la densité de population, quel type de population il vit, quelles sont les fragilités. Les services médicaux des jeunes, des personnes âgées, ne sont pas forcément les mêmes. Quels sont les taux de natalité. Et c'est à la lumière des diagnostics faits et appuyés par la science que nous pouvons proposer les meilleurs services qui vont reprendre à ce qu'on appelle les isochrones, c'est-à-dire les rapports distance-temps. Et j'ai dit que pour cette élection municipale, un des éléments clés est cette notion. Quelle distance et quel temps pour accéder à des services qui offrent la qualité de vie. Et mon livre, La ville du soin, a comme sous-titre « Territoire, les bien-être à portée de la main ». Et c'est ça que j'ai transmis comme message en France aux élus et qui, effectivement, a son succès puisque ça se trouve au cœur de beaucoup de discussions avec des élus, maires et collectivités territoriales.
Marc Breitman, cette question du bien-être, elle rejoint finalement la dimension esthétique dont vous parliez en citant Vitruve.
Absolument, elle est absolument fondamentale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je rejoins absolument Carlo sur tout ce qu'il vient de dire, évidemment. Mais il y a une chose qui est aussi extrêmement étonnante, c'est que quand vous regardez, en fait, je vous propose en fin de compte de faire une sorte de vous lancer dans la grande aventure du retour en arrière et de regarder comment les villes historiques, les villes, celles de notre patrimoine, répondaient absolument de manière extraordinaire à toutes les questions que vous posez, la ville du quart d'heure, etc. Et si vous réfléchissez, cette ville du quart d'heure ou cette ville des 10 minutes, elle avait même été évoquée il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans même. Même plus de 50 ans, excusez-moi, par Le Corbusier à Chandigarh. Chandigarh, Le Corbusier construit la nouvelle capitale.
Même à Saint-Dié-des-Vosges.
Et même à Saint-Dié-des-Vosges, il dit la ville de 10 minutes. Mais cette ville de 10 minutes, cher Nathan, c'est une ville de 10 minutes de Le Corbusier qui ne correspond pas du tout à l'esthétique que les gens aiment, dans laquelle les gens aiment vivre.
Alors justement, cette question de la ville du quart d'heure va nous occuper dans un instant, notamment en lien avec la crise écologique et la manière dont les questions climatiques réinventent l'urbanisme.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
1940.
Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est L'Incipit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Depuis le 19e siècle, Flaubert décrivait la canicule, enfin l'été chaud à Paris, et la manière dont c'est parfois infernal. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent les chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer, et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Et il décrit ce Paris désert qui est celui des étés et qui est évidemment de plus en plus difficile à vivre. Ce texte a une modernité folle. Isabelle Barrault-Serfati, face à la crise climatique, face à la montée des températures dont chaque Parisien peut faire l'expérience en première personne, année après année, quelle doit être la réinvention de notre rapport à la ville ?
Alors d'abord, je vais peut-être souscrire à ce que vient de dire Carlos Moreno, c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans une période d'accélération des changements de paradigme et qu'effectivement, les vérités du XXe siècle ne sont plus les vérités du XXIe siècle, même si les instruments de l'action publique ont tendance à être un peu restés les mêmes. Par rapport à la question du réchauffement climatique, il me semble qu'il y a deux sujets qui sont majeurs. Un premier sujet, et qui concerne plus largement la question de l'écologie, c'est le constat de la finitude des ressources. Et ça, moi je pratique l'économie appliquée aux villes, au sens de l'économie comme étant l'art du partage des richesses, et notamment l'art du partage des raretés, que j'essaye de mettre au service du vivre ensemble. Et en fait, avant, l'homme était rare, la nature abondante. Maintenant, c'est l'inverse. La nature est rare et l'homme abondant. Et ce qu'on voit surgir, justement, ce sont de nouvelles raretés. Le sol, le foncier non artificialisé, la biodiversité, les matières premières et... vous avez parlé du canal, dans cet extrait, l'eau. Et je pense que la question de la rareté de l'eau, alors qui parfois est trop abondante, mais qui ailleurs va être parfois trop rare, la question de la rareté de l'eau, elle devient un élément majeur et structurant de l'urbanisme, avec notamment, par exemple, dans certains territoires, des préfectures qui ne vont plus autoriser de nouvelles constructions du fait d'une ressource en eau potable insuffisante. Et ça bouleverse la manière de faire les villes parce que ça repose la question des échelles. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que les espaces publics doivent être de plus en plus pensés par rapport à la question du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire en fait les bassins versaux des agences de l'eau. Par ailleurs, la question du partage devient essentielle. Si je reste sur le sujet de l'eau, par exemple, quel partage des ressources en eau entre les habitants, entre les agriculteurs, entre les industries sur le territoire. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, ce premier sujet. Voilà, comment, à partir du moment où les ressources deviennent rares, comment est-ce qu'on les partage? Et puis, le deuxième sujet, et là, peut-être plus spécifiquement en lien avec la question de l'augmentation des températures, c'est comment, justement, on met en place des politiques, c'est-à-dire, encore une fois, comment on partage ces nouvelles raretés. Et je pense qu'une nouvelle rareté qui va être nécessaire pour rafraîchir les villes, c'est l'ombre. Alors, on ne peut pas fabriquer le soleil. En revanche, on a la chance de pouvoir fabriquer l'ombre. Mais fabriquer l'ombre, ça a un coût, parce qu'il faut notamment planter des arbres, les planter, les entretenir, mettre des voiles d'ombrage, faire des ombrières. Et donc, la question, c'est que l'ombre devienne une nouvelle infrastructure. Et il me semble que les élus doivent s'interroger, justement, sur à quelle échelle, comment est-ce qu'on met en partage cette infrastructure, avec aussi la prise de conscience que justement, là encore, eh bien, les vérités changent. Par exemple, sur les Champs-Élysées, jusqu'à présent, les terrasses sur les trottoirs au soleil avaient des valeurs bien supérieures aux terrasses qui étaient, ou aux commerces qui étaient situés sur les trottoirs à l'ombre. Sans doute que demain, ça va être l'inverse, avec donc de nouvelles valeurs qui vont apparaître. Et puis aussi, je voudrais insister sur justement la question de l'ombre comme élément de justice sociale, parce que notamment dans les quartiers, on va dire, populaires, dans certains quartiers sociaux dans lesquels l'urbanisme est très minéral, où les gens ne partent pas en vacances, la question en fait de cette surchauffe, en fait, devient absolument majeur. Et puis, et là ça rejoint ce que vient de dire Marc Bredman, c'est que ce que je crois en fait à travers cette question de la politique de l'ombre, parce que dès lors qu'on parle d'urbanisme, en fait, on est toujours très situé. Et non seulement les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais également les vérités d'ici ne sont pas celles d'ailleurs. Et donc, l'ombre, en fait, ce qu'elle invite à penser, et là, je cite notamment les travaux de Philippe Ram, mais l'ombre, elle invite à penser à un retour au lieu. Et le mot vernaculaire, il a été souvent un peu galvaudé parce qu'on l'assimilait à une forme de pittoresque, mais finalement, le vernaculaire, c'est d'abord une adaptation, en fait, au climat, aux ressources locales, sauf que c'est un vernaculaire déplacé. Puisque l'idée, c'est que les villes du Nord vont avoir demain le climat des villes du Sud. Et donc, je pense que c'est tout cela qu'il faut penser, avec l'idée que, justement, le réchauffement climatique oblige aussi à penser l'évolution des services publics, et que tout ça n'est pas intangible.
Alors, ça fait en effet énormément beaucoup de dimensions et d'aspects de ce problème de l'écologie, et j'aime beaucoup cet éloge de l'ombre, que je trouve très poétique. Mais justement, Carlos Moreno, dans votre livre « Droit de cité », vous consacrez tout un chapitre à la question du défi climatique. Je pense que vous serez d'accord avec Isabelle Barraud-Serfati sur cette question de la rareté, puisque vous prenez un passage à une économie circulaire dans laquelle nos principes d'usage et de consommation seraient radicalement changés, je vous cite, et une transition vers une ville post-carbone qui serait économe en énergie et en ressources naturelles. Ça fait peut-être aussi écho à ce concept dont vous parliez il y a un instant, de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire un changement de notre rapport à la modernité. Est-ce que les deux sont liés?
Oui, parfaitement liés. Hein. Je voudrais citer les travaux des philosophes décédés, malheureusement, Brûlé Latour, quand il évoquait donc, l'ancien régime climatique et donc l'impératif de faire coïncider ce qui aujourd'hui ne coïncide pas dans les villes. Le monde où on vit et le monde dont on vit. Donc dans les villes aujourd'hui, on a un mode de vie qu'on a hérité des 20e siècle, productiviste, où on va vite, où on va loin, et dans lesquels l'instantanéité s'est traduit essentiellement par des longues distances, par des longs trajets. Il y a aussi une désagrégation sociale qui s'est produite, puisque les gens n'ont plus le temps d'exister, de voir leur famille, et les voisinages n'existent plus. Et donc, c'est urbanistiquement, c'est lié aussi à cette zonification. Les lieux où on travaille, les lieux où on vit, les lieux où on a la culture, et même les lieux où on vit sont ségrégés. Il y a une ségrégation par rapport aux gens qui ont plus de moyens que d'autres. On le voit dans des villes comme Paris, à l'ouest, la catégorie des gens qui vivent, il n'y a pas de logement social. À Paris 7e, il y a moins de 3%. À Paris du 9e, il y a 43%. Donc, il faut en finir, non seulement avec l'ancien régime climatique, mais il faut aller dans une logique bas carbone, des proximités, des services, des bien-être. Et c'est ça qui est aujourd'hui au cœur de la discussion. Non pas uniquement avoir une ville post-carbone, comme je l'évoque dans les livres, mais une ville des services accessibles à tous, toutes, et dans lesquelles le logement est inséré dans cette logique des services, et dans lesquelles le logement social n'est pas dans un quartier pour certains, et dans les autres quartiers, il n'y a que des gens qui vivent avec des moyens. Donc c'est une question des mix social, des mix fonctionnels, et c'est ça qu'on appelle la ville des quarts d'heure, mais qui est plein d'autres noms lui sont donnés, la ville des 20 minutes, la ville des 10 minutes, la ville verte et prospère, la ville des quartiers complets. C'est une ville d'humanité dans laquelle on peut faire ces mélanges-là. Donc la ville post-carbone doit avoir également cette manière de socialement vivre, de développer une économie locale, une économie qui soit ancrée dans les activités, le commerce et les proximités. Et donc rendre une rue piétonne, c'est pas uniquement pour marcher, c'est aussi pour accéder à cette typologie des services qui vont nourrir notre économie et nous nourrir également dans les sens au plus précis du terme. C'est ça la ville des quarts d'heure.
J'aime beaucoup cette idée. En tant que Parisien, j'ai souvent l'impression de pas être, de être moins Parisien que d'habitant du village qui était. Enfin, Paris est un agrégat de villages et en effet de ce village quart d'heure. Vous parlez de zonification. Alors, avant de vous écouter, Marc Breitman, ça fait peut-être écho de façon négative par exemple la construction de ce quartier d'affaires qui était autour de la Grande Arche, qui a été magnifiquement raconté récemment dans un film, L'Inconnu de la Grande Arche.
Je vais prendre les jumelles.
Bien sûr.
Allons-y directement par ici, ce sera plus agréable de marcher. Vous comprenez, je suis seul comptable de la perspective devant la nation. Je dois prendre toutes les précautions que ma responsabilité exige.
Mais le cube n'est pas élevé, il respectera les grands équilibres. Vous allez voir, la simulation, tout est très clair. Voici le cube, monsieur le président. Ce que vous voyez, c'est la partie haute du bâtiment. Je vous rappelle que le cube sera ouvert.
C'est très bien.
Et la perspective est respectée.
C'est vraiment très bien, mais c'est bleu.
Oui, c'est bleu.
J'aurais préféré que ce soit rose.
J'aurais préféré que ce soit rose. Michel Faux dans le rôle de François Mitterrand. Marc Breitman, je crois savoir que vous n'êtes pas un grand fan de la Grande Arche, mais surtout sur ces questions d'écologie, on peut envisager la chose en se disant qu'il faut changer notre imaginaire de la ville. Vous, si je ne me trompe pas, vous proposez presque l'inverse, c'est-à-dire de dire que pour penser la ville de demain, il faut revenir au modèle de la ville historique, au modèle presque traditionnel de la ville historique.
C'est-à-dire de revenir à avoir, d'essayer d'avoir une vision critique de la ville historique, de considérer la ville historique comme une sorte de palimpeste qui a agrégé au fur et à mesure de l'histoire et du temps la culture des gens, la culture des habitants, de leurs habitants. Et c'est vrai que la ville historique, elle répond exactement à tous les problèmes que vous avez évoqués, notamment au travers de sa densité. Puisqu'elle permet d'avoir, et je pense à la densité, je pense au texte que vous avez lu tout à l'heure, dans lequel, en fin de compte, ce que l'auteur Flaubert décrit, c'est la ville du 19e siècle, très ensoleillée, avec les grands boulevards, etc., qui venait en contradiction avec les rues étroites, les îlots fermés de la ville historique, qui était plein d'ombre et de lumière, avec les cours intérieures, les îlots, qui étaient remplis de jardins. Ça, c'était une réponse absolument formidable, en termes écologiques, à la ville d'aujourd'hui. On pourrait très bien imaginer aujourd'hui de créer des rues étroites, pas rectilignes, avec des jardins intérieurs, comme il en existe d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, le quartier, il y a des îlots qui sont gigantesques, remplis d'arbres, etc. À l'extérieur, vous avez des petites ruelles, et il vous semble que vous êtes dans une grande densité urbaine. Donc la ville historique, effectivement, répond à toutes ces suggestions. Elle répond, en termes écologiques, au niveau social, à cette importance que doit avoir la ville de résoudre les problèmes de relations publiques, c'est-à-dire les places, les rues, sont des lieux de rencontre qui sont des lieux de rencontre d'une efficacité extraordinaire. Au même titre que la ville historique, avec son architecture traditionnelle, avec ses gros murs de pierre et avec ses briques, par le fait que les murs sont épais, résout le problème en termes thermiques, la vie dans les appartements, le fait que les fenêtres soient longues, hautes et étroites, résout le problème effectivement thermique auquel on est confronté aujourd'hui. Et enfin bref, la ville historique, de manière absolument incroyable, avait résolu tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. La concentration impliquait des infrastructures, moins d'infrastructures que celles qu'ont donné après-guerre les grands développements urbains avec ces périphéries absolument atroces qui constituent autour de nos villes des ambiances terribles. Et je pense même à la sécurité. Parce que quand vous organisez une rue avec des îlots, la rue et l'espace public, dit très clairement différencié de l'espace privé, si moi je rentre dans votre cour, il y a une sorte de contrôle social qui fait que les gens qui habitent la cour dans laquelle je suis rentré voient que c'est un étranger qui est rentré. Donc il y a toutes ces réponses que vous les trouvez aisément dans la ville historique. Alors, je ne dis pas qu'il faut reconstruire la ville du Moyen-Âge, mais je pense qu'elle est un des éléments fondateurs d'une nouvelle réflexion sur la vie moderne. Je terminerai en disant simplement deux mots. Les modes de vie changent, mais pas les modèles culturels. Nos modèles culturels restent quand même se transforment très peu. Alors les modes de vie changent, le 21e siècle, les modes de vie ont extrêmement changé, mais ce qui n'empêche que les modèles culturels, ils sont vraiment inscrits dans l'épaisseur des murs de nos villes historiques.
Est-ce que, Carlos Moreno, vous partagez cette accusation, je dirais, par rapport à un certain nombre de projets modernistes, architecturaux, et puis d'urbanisme, les deux étant très souvent ou toujours liés?
Alors, je voudrais dire aux auditeurs, parce qu'on parle souvent des villes, donc on évoque les grandes villes, à Paris, Lyon, Marseille, mais je veux dire quelque chose qui va faire très plaisir à Marc, puisque les prix qui s'appellent Territoria, donc en 2025, c'est l'Observatoire des territoires, je crois que c'est la 20e année. En 2025, en décembre 2025, les prix Ville durable a été donné à la petite ville de Saint-Hilaire-de-Brédemas, qui se trouve entre Alès et Avignon, une ville de moins de 5000 habitants, où son maire Jean-Michel Perret, s'il m'écoute, je les salue, a développé un projet extraordinaire basé sur un concept de la ville des quarts d'heure, c'est-à-dire la proximité, reprendre donc du vernaculaire, comme c'était dit tout à l'heure, donner de la place au beau, réaliser la ville des bas carbone, dans des lieux donc, qui sont addicts à la voiture, faire des pistes cyclables, changer l'usage pour qu'elle soit multifonction. Donc l'école, ce n'est pas uniquement l'école, il y a plusieurs. Développer des activités de commerce. Et cette ville de moins de 5000 habitants a gagné les prix français Ville durable. Ça montre que ces concepts des villes de proximité, bas carbone, des courtes distances, des multi-usages des infrastructures pour que ça participe, consacre un terme qui a été posé, qui s'appelle les infrastructures sociales. C'est un terme qui vient des chercheurs américains, que j'intègre dans ces conceptions, pour dire un bâtiment doit servir à plusieurs choses, il doit être multifonction, il doit obéir à tout ce qu'il faut techniquement pour répondre aux enjeux climatiques, mais surtout, il doit être dans une perspective d'usage de proximité. Et si une ville de 4500 habitants peut le faire, en Ile-de-France, Madame la Présidente Valérie Pécresse, son plan stratégique qui s'appelle les DRIF-E comme évolution, c'est l'Ile-de-France, territoire de 20 minutes. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle la proximité multi-échelle. L'Île-de-France, Paris, une petite ville de 5000 habitants, en Seine-et-Marne, Triport, c'est moins de 5000 habitants également. Ça veut dire que ces concepts-là permettent d'agréger ce que Marc a bien évoqué, de reprendre donc, ce qui a bien fonctionné autrefois, mais l'actualiser au XXIe siècle avec des constructions de qualité, avec l'accessibilité aux services, l'accessibilité aux fonctions. Et donc, ce n'est plus une utopie. En 1928, c'était une utopie. Quand l'Américain, architecte Clarence Perry, a proposé le voisinage des proximités, Quand dans les années 60, 70, 80, les mouvements du nouvel urbanisme, Jane Jacobs, Christopher Alexander le proposaient, mon ami Jean Gehl, le plus grand urbaniste vivant, dans les années 2000, il a écrit « Les villes pour les gens ». Et avant, il avait écrit un autre livre, dans les années 70, qui s'appelait « Les personnes entre les bâtiments ». Et il préfigurait des transformations qui donnaient cette place aux gens, tout en ayant un urbanisme pour les personnes, et ce qui démarque la beauté de l'architecture, parce qu'il faut bien dire qu'on a besoin d'allier beauté, esthétique, durabilité et inclusion. Et l'axe majeur de l'écologie urbaine doit être donc les services pour les personnes, pour retrouver ce que Jane Jacobs disait, l'humanité dans les rues. Et c'est la seule dignité qu'on peut avoir, c'est que les gens se retrouvent ensemble dans un lieu, un mix social et un mix fonctionnel. C'est ça la ville des quarts d'heure.
Merci Carlos Moreno, parce que vous venez de faire la transition à ma place sur cette humanité dans les rues et le lien évidemment entre la question de l'urbanisme et celle de la mixité sociale.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Moi, je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant. Elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique. Il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans. Et il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je les mets, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça. Je travaille aujourd'hui plus fort que jamais, n'est-ce pas? Je fais des villes ou des maisons ou des baraques, peu importe. Et ça commence à la plus petite chose, et c'est l'addition de toutes les petites choses, les unes ou à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course.
Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont reconnu ou non, pas sûr, hein, la voix de l'architecte, évidemment, Le Corbusier, au micro de Georges Charensol en 1962. Cette idée de l'urbanisme, de la ville conçue comme un organisme biologique. Le propre de l'organisme, c'est que les parties, non seulement sont contenues dans le tout, mais qu'elles sont toutes conditionnées les unes aux autres et que l'une ne peut pas vivre indépendamment des autres. Peut-être que c'est ça, la ville. Marc Breitman, je citais en introduction pour vous présenter le fait que vous aviez notamment, avec votre épouse, construit une grande partie de la ville du Plessis-Robinson, qui se situe en banlieue parisienne, dans le sud de Paris. Et est-ce que la question, à ce moment-là, architecturale, et la question de l'inclusivité sociale, de la mixité, dans une période dont on n'a pas parlé de ça, mais évidemment de crise du logement, est-ce que ces deux questions étaient liées dans votre travail commun ?
Absolument, elles étaient liées entre Nada et moi, évidemment, mais aussi avec le maire du Plessis-Robinson, qui a pris cette ville dans les années 89 ou 90, qui a gagné cette ville à cette époque, et qui n'était pas une ville, qui était une cité-jardin, qui avait été développée dans les années 20 pour loger des gendarmes, et qui, dans les années 60, avait connu ces développements urbains de logements sociaux, barres de logements posées sur le sol comme un tableau de Mondrian, sans aucune forme urbaine. Et le maire, son premier objectif était celui de reconstituer une forme de ville, de créer un centre-ville, de créer de la mixité sociale, au même titre qu'il voulait créer de la mixité fonctionnelle. Et c'est ainsi qu'on a dessiné un centre-ville, mélangé logement, et à l'époque, dans les années 98-99, je suis assez mauvais en date. C'est plutôt ma femme qui se rappelle des mais on a créé la première rue dans laquelle il y avait logement social et accession à la propriété qui était mélangée, ce qui était pour tout le monde une chose exceptionnelle et qui nous paraissait si normale. Dans lequel, effectivement, si je vous y emmène, vous ne savez pas repérer celui qui est social de celui qui est destiné à la propriété. Avec le maire a continué à transformer sa ville, enfin à en faire une vraie ville, avec tous les équipements qui la comportent, marché, théâtre, logement, bâtiments, grands commerces, etc. Enfin, tout ce qu'il faut, qui fait... Aujourd'hui, c'est une ville qui fonctionne avec même une partie de cité-jardin dans lequel les canaux irriguent des parcs intérieurs. C'est un des lieux les plus incroyables qui soit autour de Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'en parle. En tout cas, en France.
Ici, si.
et grâce à vous, et je vous en remercie, c'est l'occasion de l'évoquer, parce que c'est véritablement un des éléments majeurs, de mon point de vue, de la grande transformation, d'une nouvelle vision de ce que devrait être la ville aujourd'hui.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que notamment cette notion de cité-jardin, on en reparle peu, mais c'est un grand livre de Ebenezer Howard qui avait théorisé ce concept de mélanger la ville et la nature. C'était un projet politique, mais à petite échelle. Je reviens au sujet du logement. Isabelle Barrault-Serfaty, face à la crise du logement, qui est la hausse des prix, la difficulté croissante à accéder à la propriété, la précarité, etc. Quel modèle de ville préconisez-vous devant cette question ?
Alors, bon, déjà, la notion de modèle de ville, en fait, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça donne l'impression d'une vérité universelle, et encore une fois, je pense que tout ça, c'est très local, et c'est des choix politiques. Mais par contre, il y a quelques éléments qui me paraissent essentiels. C'est d'abord l'idée de dire que le logement, ça n'est pas que la surface dans laquelle on habite, mais c'est l'environnement du logement, et notamment, c'est la question des espaces publics qui vont entourer le logement, c'est la question des équipements publics, et c'est la question des voisins, et donc de la mixité sociale et programmatique. Et ça pose un certain nombre de questions parce que, d'une part, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, aujourd'hui, certains élus vont devoir renoncer à construire des logements parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer les écoles qui vont avec. Et là, je pense qu'il y a des sujets absolument majeurs sur le plan des finances locales pour, je dirais, remettre un certain nombre de priorités à l'ordre. Ensuite, peut-être le deuxième élément, donc j'insistais sur l'espace public. Effectivement, j'ai écrit un livre sur le trottoir parce que je crois que le trottoir est l'espace le plus précieux des villes. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, le trottoir, il est devenu un peu le prolongement du chez-soi. En 15 ans, en Île-de-France, en tout cas, la taille moyenne des logements a diminué de 10 mètres carrés. Et on va dire qu'une partie des usages qui se faisaient à l'intérieur du logement se sont transférés sur le trottoir et plus largement sur l'espace public qui sont aujourd'hui, et ça c'est aussi un changement de paradigme majeur, hein, le fait qu'on soit passé d'une ville qui quand même était conçue principalement pour et par la voiture à autre chose, puisqu'après ça va dépendre un peu des politiques locales, mais en tout cas à une ville où l'idée, c'est que les espaces publics, ils doivent être de plus en plus à vivre. Ça, c'est donc un point qui me semble absolument majeur. Et peut-être aussi quelque chose qui devient de plus en plus indispensable, je crois, c'est l'idée de pouvoir privilégier l'existant au neuf. Ou en tout cas, de penser le logement à la fois du point de vue de la construction de logements neufs, mais de considérer aussi que, justement, des nouveaux logements, des logements réhabilités, ce sont aussi des nouveaux logements. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire avec la ville existante ? C'est parce que d'abord, 80% de la ville de 2050 est déjà là. Parce que aussi, eh bien, un certain nombre de logements situés, notamment par exemple dans des quartiers pavillonnaires, eh bien, ils vieillissent avec leurs habitants qui, alors qu'ils arrivent, les baby-boomers, à l'âge de 85 ans, vont peut-être vouloir être moins seuls dans leur maison, vont vouloir revenir avec justement des offres de soins. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on adapte ces tissus, par exemple pavillonnaires, justement à l'évolution de la population et des enjeux. Et donc, voilà, l'idée là, c'est de se dire, en fait, je crois qu'il est vraiment indispensable de vraiment traiter l'espace public comme une composante à part entière de l'espace public, du logement, de considérer que justement l'existant est quelque chose à travailler au même titre que le neuf, et puis donc de prendre vraiment au sérieux les enjeux de financement comme étant encore une fois pas juste des enjeux de faire, mais des enjeux de politique, de partage en fait des espaces publics et des équipements publics et des routes, des trottoirs qui permettent de vivre.
Finalement, j'ai l'impression, Carlos Moreno, que toutes ces considérations, elles rejoignent exactement le mot central, la notion centrale de votre prochain livre, parce qu'il s'agit de bâtir une ville du soin. Exactement. Mais pour donner une dimension plus concrète aussi à la discussion, il y a évidemment l'héritage de la loi SRU, donc de solidarité et de renouvellement urbain, avec un nombre très important de villes qui ne la respectent pas, c'est-à-dire qui ne donnent pas assez de place au logement social. Il y a aussi, je fais exprès de les mélanger, hein, mais la question d'un certain nombre de plateformes de location pour des courtes durées, qui peuvent susciter en Espagne notamment des révoltes dans les villes touristiques. Et il y a la hausse croissante des prix dans les métropoles. Trois sujets qui n'en font qu'un.
Absolument, ils ne font qu'un. Et il faut rajouter par-dessus une conception du logement qui est dépassée, parce que c'est une conception du XXe siècle, puisque se loger, ce n'est pas avoir un toit et quatre murs. On a quelque chose d'autre aujourd'hui qui s'appelle habiter. Habiter un lieu. Habiter un lieu, ce n'est pas uniquement donc, avoir des mètres carrés d'intérieur, c'est avoir des services qui viennent créer cette qualité de vie. Et nous avons besoin aujourd'hui, quand je parle de bien-être, de réhabiliter la notion de qualité de vie. C'est pour ça qu'avec mes équipes en Sorbonne, on parle de la haute qualité de vie sociétale. Ce qui signifie les espaces publics, mais les écoles, les médecins, les soins, et tout ce qui nous permet d'avoir cette notion que j'évoque de bien-être. Isabelle parlait des trottoirs. Pourquoi les rues jardins et les rues devant les écoles sont aussi populaires aujourd'hui dans le monde entier, initiés à Paris? Vous savez que les écoles aujourd'hui à Paris, devant les écoles, avant il y avait des voitures qui passaient, maintenant c'est des mini-parcs. Parce que c'est devenu une extension des mètres carrés des gens qui vont dans ces lieux-là, les enfants, les parents, les grands-parents qui vont là. Il y a des enfants qui disent aux parents « je vais à l'école, c'est dimanche ». Mais en fait, ils vont jouer devant l'école. Et vous voyez ça à Paris, vous voyez ça à Milan, vous voyez ça à New York, vous voyez ça à Bogota, vous voyez ça à Medellín. Pourquoi ? Parce que habiter, c'est habiter, et c'est être ensemble les uns avec les autres, les unes avec les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez dit également, il faut changer le modèle d'inclusion sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à avoir les logements sociaux tous d'un côté, plus de 40%, et de l'autre côté, comme je le disais à Paris, Paris 7e, moins de 3%. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle de la ségrégation urbaine. Troisièmement, il faut avoir de nouveaux modes, de nouveaux modèles économiques. On parle, par exemple, de séparer le coût du bâti du coût du sol. Ça divise par deux les prix, donc, de l'accession à ces lieux-là. Avec une contrainte, on ne peut pas les vendre avant 10 ans, par exemple, avant X années, pour éviter les spéculations immobilières. Les gens, ils s'achètent un lieu et après, ils les vendent au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, et ils font de la plus-value. Quand on sépare le bâti du sol et qu'on bloque la vente, là, on est dans l'usage, on est dans les services. Et à ce moment-là, on peut offrir des prix accessibles. Ça a plein d'expressions, les banques de sol. Il y a plein de nouveaux modèles économiques qui permettent que ça fonctionne. C'est ça, changer la vie. Et pour finir, le mot-clé, réhabilitation. Réhabiliter plutôt que continuer à construire. Pour faire des multi-usages, c'est la ville pour tous.
Nous arrivons hélas au terme de cette émission et j'en suis désolé, je vous en remercie à tous les trois. Donc nos auditeurs, s'ils veulent repenser à ces questions, peuvent se promener au Plessis Robinson, peuvent lire évidemment vos ouvrages, peuvent aussi lire un livre dont vous parlez dans le droit de cité qui est Italo Calvino, Les Vies Invisibles, c'est magnifique. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé cette émission et merci beaucoup à Julien qui l'a réalisée et qui l'a mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France.